Et la cinquième, elle c'est une artiste, elle me ressemble beaucoup. Elle fait de la couture, elle est actrice, elle a joué aussi dans des films. Elle a 8 ans et elle fait du basket parce qu'elle veut être championne d'Afrique. Et puis elle étudie encore. Et voilà, machine populaire.
Et tu arrives encore aujourd'hui faire ton métier de styliste, faire des costumes pour tout, presque tous les cinéastes africains aujourd'hui, plus des spectacles, et arriver à vivre et t'occuper de tes enfants, c'est une chose compatible?
Mes enfants, je les ai éduqués d'une manière qui s'occupe tout seul. J'ai pas besoin d'être là pour qu'ils mangent, j'ai pas besoin d'être là pour qu'ils dorment, mais je les ai élevés pour qu'ils se débrouillent, même si je suis pas là. Je les ai élevés pour qu'ils sachent se débrouiller tout seuls, sans papa, maman, sans oncle, sans tante. Qu'ils arrivent à s'en sortir tout seuls. Je les ai élevés comme ça. Je me suis battue pour avoir ça d'eux. Et je remercie Dieu pour ça.
Tu fais des costumes pour des cinéastes, donc pour certains films. J'ai vu entre autres, par exemple, que c'est toi qui as réalisé les costumes pour ce film magnifique qui s'appelle Yen, qui est l'adaptation d'un livre d'un écrivain suisse, donc La visite de la vieille dame de Dürrenmatt. Et puis, tu fais aussi des costumes pour des spectacles de théâtre de danse, comme par exemple celui qui va avoir lieu le vendredi, la première vendredi 2 décembre, le congrès des griots à Cancan, dans le cadre de Black Movie. Comment ça se passe? Quelles consignes on te donne? Parce que tu me racontais aussi, je m'excuse, chères auditrices, de vous faire profiter des coulisses de mes conversations avec vous, mais au lieu de faire semblant que je ne sais rien du tout, il faut bien qu'on s'y réfère. Oumu me disait que souvent, elle n'a pas le scénario ni du film, ni du spectacle quand elle doit créer les costumes. Alors, qu'est-ce que tu t'appuies sur quoi pour satisfaire les gens qui te commandent des costumes?
Parce que quand on parle du congrès des griots à Cancan, bon, c'est ce que c'est que l'histoire des griots quand ils doivent faire leur congrès et tout ça. Bon, après, bon, quand elle m'a envoyé le fax en me disant qu'il va y avoir pendant le congrès un jeune intellectuel africain qui vient de l'Occident, qui descend pour filmer le congrès, bon, je vois déjà la situation, comment ça doit être. Bon, j'ai fait les costumes tout avant de venir, sauf les costumes de la fin, parce que je ne savais pas comment la fin de l'histoire allait être, puisqu'il y a ce jeune intellectuel qui est introduit dans ce congrès pour filmer. Et je sais déjà ce que devait être la réaction des griots, ça c'est normal, puisque je suis africaine. Et voilà, j'ai attendu pour faire les costumes de la fin. Je les ai faits ici quand j'ai eu le scénario à l'arrivée. J'ai fait les costumes de la fin.
Par exemple, on t'a dit, donc Claire Thalia en l'occurrence, qui est la metteuse en scène, voilà, il me faut X costumes de musicien, un costume de griot, quatre costumes de danseuse. C'est comme ça qu'elle t'a passé sa commande, en quelque sorte.
Oui. Elle me dit, il y a trois batteurs de djembé, il y a deux danseurs d'hommes forts, il y a tant de griots, il y a tant de jeunes filles, il y a tant de garçons. Bon, ça y est.
Et le cinéma, ça se passe de la même façon?
Le cinéma, ça dépend aussi du cinéaste. Et, par exemple, Idrissa Ouédraogo, j'avais pas son scénario quand je faisais son film Samba Traoré. Je l'ai eu le jour où j'ai terminé de faire les costumes pour partir. Alors je lui ai dit de me dédicacer le scénario. Il l'a signé. C'est gentil.
Mais là, de nouveau, tu avais alors suivi ton inspiration à toi, la façon dont tu supposais que les choses allaient aller?
Là, j'étais avec lui, enfin, toujours, s'il reste 2 jours à tourner, je demande, bon, qu'est-ce qu'il y a comme plan? Il m'explique, bon, je fais des costumes.
Donc, tu travailles
Parce que
beaucoup en direct, au fur et à mesure, alors.
Oui, là, j'ai travaillé en direct quand même, il n'y avait pas de préparation. Bon, j'ai eu un peu une chance quand même, quand il y a eu le tournage s'est arrêté pour une semaine, j'ai quand même pris de l'avance, parce qu'il y a eu un arrêt de tournage pendant une semaine. Ça m'a beaucoup aidé.
Et là, tu travailles avec d'autres gens, toi tu coordonnes et tu as des gens qui travaillent avec toi, ou toi-même tu te mets encore à la couture très souvent?
Oui, je me mets à la couture quand même, il faut que je pousse, que je me mets à la machine, ça c'est normal, les couper les fils et repasser tout, ça je le fais tout le temps par plaisir. Et pour voyager au Burkina et qu'on sort dans les autres plateaux, bon, je ne peux pas bouger l'équipe qui est à Dakar, je pars toute seule, j'arrive, je débarque comme ça. Je suis obligée d'avoir une machine dans ma chambre ou un atelier quelque part pour coudre. Ici à Saint-Gervais, j'ai demandé quand même qu'on m'emmène une de mes assistantes qui vient souvent à Dakar pour apprendre la couture à mon atelier. Et elle a fait 2 mois avec moi cette année. Et elle est venue il y a 3 ans, elle a fait aussi 2 mois à mon atelier. Et elle avait fait des stages l'année dernière avec les filles qui étaient là. Et voilà, je l'ai fait venir pour qu'elle m'aide un peu pour les préparatifs de ce costume. Ça y est, c'est fini.
Le défilé de couture, quand tu fais un défilé, c'est des costumes de la vie de tous les jours? C'est n'importe quelle femme qui peut acheter ses vêtements? Comment ça se passe après? Elle te passe des commandes? Comment?
Enfin, j'ai jamais fait un défilé que je reste 2 jours après avec les vêtements. À chaque fois, si je fais un défilé, soit les habits sont achetés tout de suite après le défilé ou le lendemain. Je les ai pas jamais après.
Donc quand, c'est des objets uniques?
Oui, je fais que des pièces uniques en général. Et même les bijoux que je fais, tout, c'est toujours les prototypes. Je n'aime pas répéter parfois les choses, à moins que le client le demande, parce qu'il y a des clients qui aimeraient bien quand même copier quelques modèles ou quelque chose comme ça. Ils me disent, bon, tel modèle que tu as vendu ou que j'avais vu au défilé, j'avais déjà vendu, alors je le répète. Mais ce n'est pas par plaisir, hein, c'est pour satisfaire le client que je le fais.
Pour ton plaisir, quelle est la chose que tu préfères faire dans tous ces aspects différents de ton travail? C'est la collaboration avec le cinéma, avec le théâtre, avec la vente de vêtements, enfin la présentation de vêtements pour les femmes qui les mettent directement. Qu'est-ce que tu préfères?
Enfin, je préfère faire quand même les pièces de théâtre, les films les plus difficiles. Ça, c'est ce que j'aime bien quand c'est difficile. J'adore ce qui est difficile.
Qu'est-ce qui est difficile, par exemple, pour toi? Qu'est-ce
par
qui
exemple,
représente une difficulté?
Quelqu'un vient me dire, j'ai tel film, j'ai besoin des costumes dans tel délai, et les costumes sont difficiles, ceci, cela, et ça doit être fiction, quelque chose comme ça. J'adore chercher et créer quand c'est fiction. Mais si c'est des films anciens ou des films d'époque, bon, il n'y a pas de recherche, hein. Il suffirait de chercher des journaux et de retrouver, d'aller dans les musées et de retrouver les costumes d'époque. Mais si c'est en fiction, j'aime beaucoup les fictions.
Ou tu as toi-même une recherche historique à faire sur le vêtement lui-même?
Oui, les costumes historiques, ça, bon, je le fais dans les musées. Je pars, par exemple, si c'est les costumes d'Occident, je pars au Centre culturel français de Dakar. Je retrouve les bouquins avec les costumes d'époque, que je fais les vêtements. Quand on faisait les costumes du spectacle Toussaint Louverture, ils sont venus avec les dessins de l'Europe et avec les tissus et tout. Il n'y en avait qu'à couper et faire. Je les ai fait comme ça, du spectacle Toussaint Louverture. Le bicentenaire, j'ai ouvert les bouts des journaux pendant le bicentenaire, j'ai fait les costumes.
Est-ce que tu as très prochainement un projet qui te tient beaucoup à cœur pour terminer notre rencontre?
Oui, j'ai la maison de France Gall qui est à Gongor, à Dakar, qu'elle a achetée. Que l'architecte a terminé, il reste que moi je fasse les décors intérieurs, parce que je fais aussi des décors de maison. Et j'ai un film avec Bernard Giraudot qui va se tourner au Sénégal, une partie à Saint-Louis et une autre partie à Dakar et une partie à Gorée et dans le Saloum. C'est un tournage qui va durer 3 mois, ça finit en mi-avril.
Et là, il y aura des costumes typiquement africains et des costumes coloniaux européens?
C'est des costumes quand même d'époque, hein, parce que c'est à l'époque des salons, les pirogues à voile et tout ça.
C'est là, beaucoup de travail de recherche. Hein.
Et beaucoup de vieillissement surtout. Il faut bien vieillir les costumes et les patiner et tout. J'adore ça aussi.
En tout cas, merci beaucoup tout ce temps passé avec nous et tout ce récit de ta vie, très intime, merci.
De rien, au revoir.
ko sanimisa dugaden na bila mondi wana kantigi jugu ya to sala sangare unyo ina tankali
alai
dugi nye kwa koni ya to sala Mokaduni kona fonyonu nche, jeka gele nyona bila makui.
C'est toujours Oumou Sangaré que vous entendez, musicienne de Côte d'Ivoire, mais qui évoque aussi le Mali et aussi le Burkina Faso dans ses chansons, comme cette dernière chanson Kozira, qui était un hommage à beaucoup de gens qu'elle connaît dans ces différents pays d'Afrique de l'Ouest. Pour terminer cette émission de remue-ménage consacrée au festival du film africain Genève Black Movie, je vous rappelle qu'il dure encore jusqu'au 10 décembre, eh bien, je voulais vous faire entendre un petit extrait, vous raconter très brièvement un des rares films réalisés par une cinéaste femme, Safi Faye, réalisatrice du Sénégal. Elle devait venir, comme je vous en parlais la semaine passée. Malheureusement, elle était retenue au Sénégal par la production de son dernier film, qui est bloqué pour des problèmes financiers. Et alors, nous avons pu découvrir deux films qu'elle a réalisés. Il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, puisque celui que j'ai vu, qui a pour titre L'aide paysanne, a été réalisé en 1975. Et un deuxième film que nous avons pu voir, Fadjal, a été réalisé en 1979. L'aide paysanne, qui a reçu le prix de la critique internationale au Festival de Berlin en 1976. Tout de suite, un tout petit extrait, et c'est en fait la fin, mais moi je vous raconterai un petit peu le début. C'est l'aide paysanne de Safi Faye.
Je les remercie. Wake up. Je dédie mon film à mon grand-père, lui qui toute sa vie a été agriculteur et qui est mort 11 jours après le tournage. Je termine ma lettre en vous saluant.
Alors, de quoi parle le film de Safi Faye? Eh bien, Lettre paysanne, comme elle vient de lire, c'est une lettre qu'elle a envoyée, mais qui, en fait, raconte la vie de son village, la vie des gens de sa famille. Et elle a pris comme héros et héroïne de son histoire d'abord Ngor, qui est un jeune paysan, et Kumba, une jeune paysanne. Ngor est obligé à un moment donné, faute d'argent, entre autres pour payer la dot aux parents de Kumba, d'émigrer en ville pendant la saison sèche. Et là, il va devoir effectuer de petits travaux temporaires, par exemple homme de ménage, et on verra qu'il sera fort maltraité par les femmes. Il sera aussi coursier, etc. Bref, tout juste de quoi gagner un petit peu d'argent pour finalement revenir au village, ce qui est rare, replanter l'arachide parce que c'est le moment de le faire, et finalement épouser Kumba, bien sûr. Mais ce film, c'est aussi l'occasion d'évoquer les difficultés, bien sûr, des villageois, des paysans, les problèmes économiques du monde rural, entre autres celui de la baisse du prix de l'arachide. Et comme le disent les hommes qui sont installés chaque jour au pied du grand baobab, au pied de l'arbre à palabres, eh bien, autrefois, avec un kilo d'arachide, ils obtenaient un kilo de riz. Aujourd'hui, ils doivent donner 3 kilos d'arachide pour obtenir le même kilo de riz. Et on découvre aussi toute la vie chaleureuse quotidienne de la famille de Safi Faye. Alors bien sûr, le rapport de ce fiancé et de cette fiancée, le fiancé qui travaille dans les champs de son futur beau-père, la jeune fille qui vient l'essuyer dans son dur labeur. Et puis le jour où les jeunes filles sont de repos, et bien c'est quand même ce jour-là qu'elles vont aider les vieilles femmes dans les champs. On partage avec les parents, soit de Kumba, soit de Ngor, les inquiétudes par rapport à la sécheresse qui s'installe dans le village, la pluie qui ne vient pas, personne n'a plus de travail. Et alors les parents de Kumba espèrent peut-être avoir leur problème résolu par la dot que devrait verser Ngor, mais bien évidemment, il ne peut pas la verser lui non plus, donc il va devoir partir en ville. Et là, juste avant cela, eh bien, au pied de l'arbre à palabres, comme je vous disais, la caméra de Safi Faye suit un peu ces visages incroyables d'hommes jeunes, vieux, le fameux grand-père de Safi Faye à qui elle dédie son film. Et on découvre aussi des personnages aussi simples que l'âne avec Sacha qui tire la charrue la plus élémentaire. Et puis les huttes de paille du Sénégal que l'on découvre avec très petite, avec un rond au milieu de la paroi dans lequel on doit se glisser pour aller dans la hutte. Et puis aussi des images qui mettent en évidence le langage. Par exemple, lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh bien on lui dit « As-tu la paix ?» Et l'autre répond « La paix seulement un peu parce que ceci, cela, ou bien non, je ne suis pas en paix parce que je n'ai pas de travail, je viens de me faire licencier. » Et il y a celui aussi qui lit le journal pour les autres et dans lequel les villageois lui demandent « Mais est-ce que ton journal, il parle de notre sécheresse ? Il parle de politique par-ci, politique par-là, mais en fait, pas beaucoup de ce qui se passe dans les villages. » Alors, dans cette fameuse ville dont vous entendez les bruits horribles tout à coup. C'est la circulation, c'est les voitures partout, c'est les gens accumulés dans les maisons, les petites maisons qui ressemblent bien sûr fort à des bidonvilles. Et puis c'est la chasse pour Ngor pour trouver un travail. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant dans le film de Safi Faye, c'est qu'elle va nous montrer qu'en fait le principal obstacle pour Ngor pour trouver du travail, ce sont les femmes. Les femmes qu'elle nous dépeint un petit peu comme des sales mégères qui trônent dans leur famille, celles qui engagent les gens pour faire le travail et entre autres qui engagent des hommes de ménage qui doivent savoir repasser, laver le linge, nettoyer, passer la poussière, laver la voiture. Et elles arrivent très chic dans leurs 4L à ressortir et à partir, conduire. L'homme referme le portail derrière elle et quand elle rentre, elle s'offusque que le linge n'est pas assez bien lavé et renvoie le jeune homme sans le payer. Et le pauvre, il va essuyer ce genre d'attitude plusieurs fois au cours de son périple pour trouver du travail. Alors, c'est assez étrange, cette façon de camper les femmes, qu'on a l'impression qu'elles sont devenues tout à coup très bourgeoises, très exigeantes, un rôle complètement différent de celle au village. Au village, on avait assisté à des scènes beaucoup plus intimes, et là, vraiment, tout à coup, ces matrones qui trônent dans leur jardin. Et puis pendant ce temps, pendant que Ngor est à la ville, eh bien, au village, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Kumba tombe malade de tristesse parce que son fiancé est parti à la ville. Et là, une toute autre histoire. On entre comme ça dans la vie plus mystique des villages avec le rôle de la religion animiste et on voit Kumba qui va se faire purifier parce qu'elle est malade de tristesse. Des images très très belles où on la voit se laver dans une hutte avec 7 ou 8 bassines qui sont devant elle pour se purifier. Et puis, heureusement, à un moment donné, Ngor va trouver du travail, va réunir l'argent qu'il lui faut. Et il va rentrer au village et juste avant cela, on découvre bien sûr, par le biais des dialogues, tout le problème de l'exode rural. Certains lui disent, mais qu'est-ce que tu vas faire, rentrer au ton village? Tu es fou, cultiver la terre, c'est bien trop dur. Moi, on m'enterrera ici. Et puis lui, de défendre la nécessité d'aller replanter des arachides parce qu'il est temps qu'il rentre. Au village, on l'accueille évidemment avec beaucoup de joie. Il va faire son mariage un peu moins chic que peut-être riche que d'habitude. On ne tuera pas le bœuf, mais on tuera une chèvre pour son mariage. Ce sera quand même la fête. Et là, des images assez étranges de nouveau de la part de sa fifaille, où intercalées avec les chants du mariage, on découvre le jeune homme et la jeune fille se déshabiller, s'étendre sur le lit et s'enlacer. C'est assez étonnant. On ne s'imagine pas qu'on fasse découvrir au monde cette intimité du premier jour du mariage. Et finalement, ce sont les dernières paroles en fait du film. Sont consacrées à l'espoir que la vie soit meilleure. On se retrouve parmi les hommes sous l'arbre à palabres. Et là, Ngor va commencer à donner des conseils à ses concitoyens au village. Et là, c'est très théâtral comme ça. On a l'impression d'un dialogue très appris par cœur. Chers amis, il est temps que nous plantions des arbres et que nous ne les coupions plus. Comme ça, la pluie va revenir. Il faut qu'on se défende. Quand l'État se met de l'argent dans ses poches, c'est parce qu'il vend plus cher notre arachide que ce qu'il nous l'a acheté. Il faut que nous récupérions cet argent. Enfin, tout à coup, un discours comme ça, très politique et très volontariste, qui achève les dernières images de l'être paysanne de Safi Fai. Mais je crois que c'est étonnant de voir ces images, ces personnages. Mais malheureusement, ce film a passé hier, en même temps qu'un autre film qui évoquait aussi le problème de l'arachide. Il n'y a pas d'autres réalisatrices femmes programmées pendant ce festival. Mais comme vous le disiez, Katerina von Flotow la semaine passée, c'est de toute façon difficile de trouver des femmes réalisatrices en Afrique. À sa connaissance, il n'y en a que 3. Nous avons la chance d'en voir une. J'espère que vous étiez des spectatrices qui étaient là hier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans Remue Ménage. La pleine lune attend désespérément de pouvoir montrer dans votre ciel. Je peux vous le dire, elles sont impatientes de vous retrouver. Et nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine. Nous nous retrouverons d'ailleurs avec Viviane Gonick et moi-même, puisque nous accueillerons Rina Nissim et 2 femmes qui viennent témoigner d'une histoire très sordide dans un hôpital genevois.
Le père de Ngor n'a pas les moyens de tuer un bœuf pour le mariage de son fils. Il tue un mouton. Oh.
c'était les Deltones qui chantaient à Genève il y a quelques années à la radio. Les Deltones dans Rue Ménage, et tout de suite c'est La Pleine Lune.